Vous écoutez France Culture.
Réplique, pensée avec Lucrèce, avec Elisabeth de Fontenay et Paul Venn. On ne peut pas penser n'importe quoi, n'importe quand, disait Michel Foucault. Et en effet, on ne peut pas penser aujourd'hui avec les mots, les métaphores et les concepts de Lucrèce. Et pourtant, le De Natura, ce grand poème philosophique de cet auteur latin né dans les années 90 et mort dans les années 50 du 1er siècle avant Jésus-Christ, vient de paraître dans la collection Classiques en poche des Belles Lettres avec une lumineuse préface d'Elisabeth de Fontenay. Choisir l'édition de poche, c'est sortir du strict cadre universitaire, c'est viser un public de non-spécialistes, de non-latinistes, de non-historiens, de non-philosophes professionnels. Quant à ce que dit le mot classique, c'est comme l'écrit Gadamer dans Vérité et méthode, que la puissance communicative directe d'une œuvre est par principe illimitée. Lorsque nous qualifions une œuvre de classique, écrit encore Gadamer, c'est dans la conscience de sa permanence, de sa signification impérissable, indépendante de toute circonstance temporelle, dans une sorte de présence intemporelle, contemporaine de tout présent. Et classique, ajoute Gadamer, ce qui parle de telle manière qu'il ne se réduit pas à une simple déclaration sur quelque chose de disparu ou à un simple témoignage sur quelque chose qui reste à interpréter. C'est au contraire ce qui, à n'importe quel présent, dit quelque chose comme s'il ne s'adressait qu'à lui. Ces formulations me dictent ma première question à Elisabeth de Fontenay et Paul Venn. En quoi Lucrèce est-il un classique ? En quoi son œuvre est-elle, outre son intérêt documentaire, éclairante et instructive pour notre présent ? Elisabeth de Fontenay.
C'est très amusant que vous référiez à Gadamer, parce que c'est le grand homme de l'herméneutique. Or, Lucrèce, c'est le rejet radical de l'herméneutique. Donc c'est déjà, je trouve que ce commencement de notre entretien est très amusant et très plaisant. Alors, je ne répondrai pas à la question qu'est-ce qu'un ce texte, en tant qu'il est classique, me fait, quelle impression il me donne. Je dirais plutôt « nous » que « je ». Et qu'est-ce que ce poème philosophique interpelle dans notre modernité ? Alors, je dis tout de suite que je ne vois pas qu'on puisse être épicurien aujourd'hui, c'est-à-dire la morale d'Épicure ou la morale de Lucrèce, elles ne sont pas tout à fait les mêmes, disons que c'est la même chose, ne me semble pas très adéquate, très topique pour notre temps. La phrase « la mort n'est rien pour nous » m'a toujours semblé une phrase aberrante, à la limite du psychotique. Et la mort de l'autre, c'est rien. Et ce n'est pas par hasard que j'ai commencé dans cette préface, que j'ai parlé au commencement de cette préface des jeunes gens atteints par le sida, qui mouraient par milliers, il y a une dizaine d'années, et qui ne lisaient pas du tout Épicure et Lucrèce. Ils lisaient les stoïciens. Ils lisaient Sénèque, ils lisaient Épictète et Marc Aurèle. Et ça montre bien que la mort n'est rien pour nous. La mort n'est pas du tout pour les stoïciens ce qu'elle est pour les épicuriens. Il y avait une sorte de consolation, un retour au moi qui était vital pour eux. Et puis peut-être l'idée qu'on se confondait ensuite avec un cosmos organique, vivant, alors qu'il n'y a rien de tel chez les épicuriens. En ce qui concerne la pensée du plaisir, pour continuer à parler de l'éthique, de la prétendue éthique épicurienne, je ne la sens pas pour des raisons matérialistes historiques. Et je citerai une phrase de l'idéologie allemande de Marx et Engels. La philosophie du plaisir fait abstraction des conditions d'existence. Elle n'a jamais été qu'un langage à l'usage de certains milieux sociaux qui avaient le privilège des jouissances. C'est indépassable pour moi.
Et en même temps,
c'est ininuniversalisable.
Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment une philosophie du plaisir, puisque c'est une philosophie de l'ataraxie, l'épicurisme? Donc, il y a, me semble-t-il, une espèce de contraste entre ce que nous désignons dans le langage commun par une attitude épicurienne et l'épicurisme philosophique qui célèbre, avant toute chose, l'absence de troubles.
Les épicuriens ne sont pas des pourceaux. Ça, il y a un ascétisme.
Oui, il y a un ascétisme.
Il y a un ascétisme. Mais, tout de même, pour que le problème de renoncer à certains plaisirs inutiles puisse se poser, encore faut-il pouvoir en jouir ces plaisirs inutiles. Donc il y a là quelque chose.
Moi, je d'accord.
Qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui peut nous toucher dans ce De Natura Rerum? Je ne parle pas évidemment de la beauté de la poésie latine. Il me semble que c'est la leçon de sérénité et de libération quand Lucrèce dit à la suite d'Épicure que la connaissance de la physique doit se substituer à l'interprétation des signes, des intentions prétendument divines, des finalités, et à l'interprétation d'un monde considéré comme vivant, interprétation du destin. Tout cela est complètement liquidé par Lucrèce. Il n'y a rien d'autre dans la physique de Lucrèce. Il ne faut que la physique, et la physique de Lucrèce, ça n'est rien d'autre que des atomes de différentes tailles et différentes formes qui tombent dans le vide. Et si ces atomes se rencontrent et s'agrègent, et s'ils produisent des corps et des mondes, c'est que toujours, déjà, ils déclinent dans leur chute. Ils s'écartent de la verticale. Ils opèrent une déviation. C'est ce qu'on appelle le clinamen. C'est ce qu'il appelle le clinamen. Le clinamen est un concept prodigieux. Je ne devrais pas dire prodigieux parce qu'il n'aime pas les prodiges. C'est un concept tout à fait remarquable, assez unique dans l'histoire, tout à fait unique dans l'histoire de la philosophie. C'est un principe d'indétermination qui relève à la fois du hasard, ou disons de l'aléatoire, et qui relève aussi de la nécessité. Et ça permet d'expliquer la formation de tous les corps, et surtout des corps vivants, ce qu'il appelle les animantes. C'est-à-dire que le clinamen permet d'échapper aux pures lois du choc et permet d'établir dans les corps vivants en particulier et dans le corps de l'homme comme dans les corps des autres animaux une sorte de spontanéité. Ce qui fait, et j'en termine, ce qui fait que Lucrèce est à la fois physicien matérialiste et en même temps, avec ce principe du clinamen qui est un principe de spontanéité dans la chute des atomes, il nous fait échapper à tout ce qui nous guette aujourd'hui, à savoir la naturalisation de l'esprit, à savoir le tout génétique. Il nous fait échapper au destin des physiciens. Il ne veut ni du destin des stoïciens, ni du destin des physiciens. Voilà en quoi il me touche.
Oui, le clinamen, dit Lucrèce, est un mouvement qui rompt les lois du destin et il prête aux atomes le pouvoir de dévier spontanément de leur trajectoire. Paul Venn.
Vous parliez de classicisme et Madame parlait d'actualité. Je dirais d'abord en une phrase que c'est une bénédiction que Lucrèce paraisse en livre de poche dans une traduction parfaitement lisible et avec une introduction éclairante. C'est une bénédiction parce que Lucrèce communique à ses lecteurs à travers une physique élucubrante ce que j'appellerais faute de mieux, pour commencer, un sentiment océanique, un sens cosmique, et avec quelle puissance ? L'Énéide de Virgile est une œuvre second degré. Avec Lucrèce, on est directement en présence d'un homme qui nous parle d'homme à homme, qui nous dévoile sa pensée. C'est du Rembrandt, c'est pas du Raphaël. Et il nous parle avec quelle voix ? Lucrèce a une voix qu'on ne peut confondre avec aucune autre, un peu comme Virgile a sa voix. Et cette voix est pressante, solennelle, ironique et aussi puissante que sincère. Nous avons avec lui un rapport d'homme à homme et il nous donne du sens cosmique.
Alors, et nous avons un rapport d'homme à homme avec Lucrèce. En même temps, et j'aimerais qu'on y vienne maintenant, Lucrèce dit, après Épicure, parce que son œuvre est un commentaire d'Épicure, « La mort n'est rien pour nous ». C'est le titre d'ailleurs du livre que Jean Salem a consacré, ou le sous-titre à Lucrèce, Lucrèce et l'éthique, « La mort n'est rien pour nous ». Et Isabelle de Fontenay, vous disiez en effet, et vous l'écrivez dans votre préface, que les écrits que lisaient en essayant de trouver la force de devoir mourir les jeunes hommes qui par milliers succombaient dans les dernières années du XXe siècle, ce n'étaient pas les lettres d'Épicure, c'était les écrits des stoïciens. Et je crois d'ailleurs que il en allait de même pour Michel Foucault. Il me semble que c'est ce que vous le dites quelque part, oui, que Michel Foucault lisait Sénèque.
Oui, Sénèque a occupé une grande place à la fin de sa vie quand, et lui seul le savait, il se savait atteint du sida et attendait sa mort.
Voilà. Et en effet, la grande surprise de la lecture de Lucrèce ou d'Épicure, c'est cela. La mort n'est rien pour nous. Alors, il y a ce côté égoïste, la mort de l'autre, en effet, est-elle quelque chose? Mais même, si vous voulez, qu'est-ce que peut avoir de consolant l'idée que la mort est néant? Parce que c'est ce qu'il dit. Comme si, mais ça c'est absolument fascinant. Là, il y a peut-être justement plutôt une divergence insurmontable entre ce passé et nous-mêmes, comme si la peur de la mort devait être en réalité la peur de l'immortalité, une peur l'immortalité, la peur de l'Achéron, la peur des enfers, etc. Et que les hommes trouvaient une consolation dans cette affirmation de Lucrèce, l'anti-Platon, dites-vous, Élisabeth de Fontenay, que l'âme elle-même est mortelle. Voir, et ça c'est aussi extraordinaire, que les mondes sont mortels. Rassurez-vous, tout meurt. Tout meurt. Il n'y a rien à interpréter, tout est explicable, et en même temps, tout meurt. Et soyez contents. Donc, plus on lit Lucrèce, plus on est effrayé par la lucidité dont il fait preuve. L'ordre cosmique est une illusion, l'immortalité de l'âme est une illusion, et donc ce qui pour nous est un sujet d'effroi est pour Lucrèce et pour l'école d'Épicure un sujet de sérénité. Et je voudrais qu'on explore un peu ce paradoxe, Élisabeth de Fontenay.
Je crois qu'il y a un vers où il dit « Seule la mort est immortelle ». C'est très beau, hein, la mort est immortelle. Et je crois que vous avez raison de dire que ce dont il pense que cela fait peur dans la mort, c'est l'idée d'une vie après la mort et de punition envoyée par les dieux. Et ce qu'il y a de plus important dans son œuvre, de plus essentiel, c'est bien cette idée que l'âme est matérielle. L'âme est aussi matérielle que le corps, sauf que ses atomes sont infiniment, je ne sais pas si le mot infiniment est juste ici, que ces atomes sont beaucoup plus subtils que ceux des corps, et qu'il y a en plus quelque chose de subtilissime, c'est-à-dire une quatrième substance de l'âme, qui est un je ne sais quoi, qu'il ne définit pas, de façon très, très étonnante, très, très déconcertante pour un rationaliste. Et même s'il y a cette partie indéfinissable de l'âme qui est à l'origine des mouvements spontanés des hommes, il reste que l'âme se dissout entièrement après la mort. C'est-à-dire que les histoires d'immortalité de l'âme du Cédon, les présocratiques, en particulier Pythagore et Empédocle, avec leurs idées de métempsychose, tout cela est rayé par Lucrèce, qui revient à la fin du livre 3, qui consacre plusieurs pages à affirmer cette mortalité de l'âme. Il n'y a rien après la mort. Et c'est ça, c'est de là que vient la sérénité. Et ça, c'est vrai que ça nous déconcerte, parce que nous sommes tous, j'ai coutume de le dire, nous sommes tous plus ou moins chrétiens, en le sachant ou sans le savoir. Au fond, nous posons tous des questions sur ce qui se passe après la mort. Les gens les plus inattendus disent « je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ». Là, c'est affirmé de façon massive, il n'y a rien, il n'y a rien, tout se dissout. Les atomes reviennent dans le tourbillon des atomes qui s'agrégeront grâce au cléinamen, qui s'agrégeront de nouveau un jour. Vous avez parlé, j'aurais juste ajouté un mot, Alain Finkielkraut, vous avez parlé des mondes. Une des choses qui est la plus audacieuse chez Lucrèce, c'est cette idée de pluralité des mondes. Il n'y a pas le beau cosmos stoïcien, organique, vivant, il y a des mondes. Et bon, peut-être que mes atomes iront, constituer des corps dans d'autres mondes.
Paul Venn.
Lucrèce essaie de nous faire croire que notre peur de la mort est une peur de l'au-delà, des enfers et tout ça. Il y a une chose pourtant qui s'impose, c'est que la peur de la mort n'est pas une idée qui nous vient de certaines croyances, c'est une réaction biologique, la même réaction biologique qu'éprouve un insecte qui s'enfuit de dessous notre semelle quand nous entreprenons de l'écraser. En réalité, Lucrèce en reste à l'insipide paradoxe bien connu des anciens. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Si on a peur de la mort, si on éprouve la peur de la mort, c'est qu'on est encore vivant. Et quand on est mort, on ne sent plus rien, on n'a plus peur de la mort, alors nous n'en faisons pas. Ça ne peut rien contre une puissance biologique, inconsciente, tout ce qu'on voudra, dont Lucrèce ne veut pas avoir connaissance.
C'est un syllogisme.
C'est un rationaliste, c'est un intellectualiste, ouais. Cet homme.
Alors c'est ce que dit Épicure, il n'y a plus rien à craindre dans la vie pour qui a compris qu'il n'y a rien à craindre dans la non-vie. Sauf que ce qu'on craint dans la non-vie, c'est précisément le fait que c'est une non-vie. Donc en effet, on est surpris, mais en même temps à vous entendre l'un et l'autre, on sent qu'il y a quelque chose de paradoxal chez Lucrèce. C'est-à-dire, la consolation nous paraît absurde, mais la lucidité nous semble extraordinaire. Cet homme qui donne, comme l'a écrit Gilles Deleuze, ses lettres de noblesse au pluralisme, qui affirme la pluralité du monde, qui dissipe toutes les illusions. Et il le fait d'une manière extraordinaire. J'ai sous les yeux le livre de Rémi Brague, La sagesse du monde, un très beau livre, où il montre que chez les anciens, il y avait une sorte de cosmonomie. On imitait le cosmos. Donc la physique était une éthique. On imitait le cosmos, on essayait de trouver le même type de sérénité que celui des astres. Et Rémi Brague cite un passage du Timée qui va tout à fait dans ce sens. Il ne peut pas y avoir, chez Lucrèce précisément, une imitation du monde. L'ordre, il n'y a pas d'ordre préexistant de la réalité non humaine physique qui aiderait l'homme à atteindre la plénitude de son humanité. Non, il n'y a rien de tout cela, et simplement, Lucrèce dit, nous ne serons plus angoissés dès lors que nous aurons une explication. Il suffit, au fond, il n'y a pas d'interprétation, vous le dites, on chasse toutes les interprétations au profit d'une explication, et une fois qu'on aura une explication, l'angoisse disparaîtra. On ne peut pas, moi, ça, on n'arrive pas à faire l'articulation, et en même temps, cette explication a quelque chose d'extraordinaire.
Le pluralisme dont parle Deleuze va jusqu'à affirmer la pluralité des explications. La vera ratio, ça peut être une explication ou une autre. C'est dire l'espèce de relativisme. Alors, vous parliez de l'imitation du cosmos. À la limite, on ne peut pas parler de la nature. On ne peut même pas parler de la nature. Parce qu'il y a dans notre concept de nature, notre concept vulgaire de nature, l'idée tout de même d'un ordre sinon éternel, d'un ordre extraordinairement stable et d'une régularité parfaite. Alors, il y a des régularités chez Lucrèce. S'il y a une physique, c'est bien qu'il y a des régularités. Et en particulier, n'importe quelle semence ne donne pas n'importe quel être. Mais le mot même de nature, qui est quand même jusqu'à un certain point une traduction de cosmos, de natura, de cosmos, à la limite, il faudrait intituler ce livre « De la physique » et pas « De la nature ». Parce que la nature, c'est encore trop dire pour Lucrèce, me semble-t-il. C'est encore trop d'ordre. Non pas qu'il n'y ait que du désordre, ça n'est pas de l'aléatoire pur, c'est aléatoire et nécessaire. Les chocs entre les atomes, les rencontres entre les atomes. Mais l'idée d'un... Alors, si on l'entend nature au sens de Nascor, c'est-à-dire naître, on peut dire que ce grand livre, que c'est le grand livre de la naissance des choses, du venir au jour des choses. En ce sens-là.
Oui, parce qu'il y a une création.
Alors voilà. Moi, j'ai toujours eu des problèmes terribles avec la création, là, quand je faisais des cours et que création. Et au fond.
Il n'y a pas d'éternité du monde.
Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots pour traduire. Alors, il faut évidemment complètement se débarrasser, ce qui n'est pas simple, de l'idée d'un créateur. C'est la génération spontanée des choses. Il est un partisan de la génération spontanée.
Paul Venn, vous voulez ajouter quelque chose ?
Pour une curiosité, ce que vous dites sur la nature, je partage entièrement, mais il demeure que la lecture de Lucrèce, qui est très claire, c'est un des auteurs latins les plus clairs, la lecture de Lucrèce, je me souviens de mes émotions de collégien, donne l'impression d'un ciel nocturne étoilé. Le ciel nocturne de l'absurde, selon Camus, mais étoilé pour la doctrine. Et ce qu'il y a d'extraordinaire et où Lucrèce se dément lui-même, c'est la question suivante. Lucrèce veut être clair. Aucun texte n'est aussi clair que lui. Mais pourquoi s'intéresse-t-il tellement à ses lecteurs? C'est parce que, chose peu connue, les épicuriens eux-mêmes avaient le sens de la solidarité humaine comme les stoïciens. Pour un épicurien, chaque homme reconnaît son semblable en un autre homme. C'est ce que la philosophie antique appelait l'oikeiosis, laissons les mots, mais il y a un sens épicurien de la solidarité humaine comme chez les stoïciens. Et c'est pour ça que Lucrèce veut absolument convertir, c'est pour ça que sa prose est aussi claire, c'est pour ça qu'il est aussi véhément et énergique, et ça donne finalement l'impression d'un ciel nocturne, hélas, mais étoilé.
Alors, je voudrais juste ajouter un mot, parce que pour aller dans votre sens, j'ai dit que je crois qu'en dernier ressort, il n'y avait pas de nature, mais il y a des descriptions de paysages, des descriptions de comportements animaux, descriptions des choses de la nature qui sont absolument prodigieuses et que Virgile et Ovide imiteront.
Alors, nous en viendrons notamment aux comportements animaux, mais vous avez utilisé le mot de conversion. Et en effet, il veut convertir. Mais convertir à quoi, Lucrèce? Alors, je voudrais le citer. En voyant tous les phénomènes qui s'accomplissent dans le ciel et la terre, une angoisse souvent s'empare des mortels, qui ôte à leur esprit son assise, jette leur âme dans la crainte des dieux, les abat, les courbe vers la terre. Les convertir et les délivrer. C'est une sorte d'homme des Lumières, à sa façon. Il veut délivrer les hommes de la crainte des dieux, leur ignorance des causes. Voilà ce qui les fait remettre aux dieux l'empire du monde. Donc, il va donner les causes. Nous, ces causes nous angoissent, alors qu'il dit qu'elles peuvent nous désangoisser. Mais c'est ça, c'est une conversion à une idée du divin délivrée de toute crainte. Et la présence des dieux dans l'épicurisme a quelque chose de stupéfiant, parce que ce sont des dieux impassibles, totalement indifférents au sort des hommes. Ils n'en ont absolument rien à faire, et nous dit Lucrèce, c'est une bonne nouvelle. Alors, que pensez de cela?
Alors, moi, ce qui me fascine littéralement, parce que je crois que c'est très nietzschéen, c'est que Il se bat contre la religion avec une fermeté, une vigueur extraordinaire, mais il pense qu'il y a des dieux. Il ne nie pas l'existence des dieux. Les dieux sont là d'une matière encore plus subtile que la quatrième partie de l'âme. Ils sont imperceptibles, ils ne sont pas accessibles au sens, ils sont juste concevables. Et ils sont tellement constitués d'une matière subtile qu'ils ne peuvent pas habiter des mondes, qu'ils habitent entre les mondes, qu'ils demeurent entre les mondes. Et ces dieux, comme vous le disiez, sont impassibles et, disons, impuissants. Ils n'interviennent absolument pas, mais Lucrèce dit qu'il y a une beauté des dieux. Et alors c'est très compliqué, qu'est-ce que c'est que cette beauté qui n'est pas perceptible? Tout ça est mystérieux. Et je crois vraiment qu'il y a là quelque chose de très fort, à savoir ne pas nier l'existence des dieux, mais ne pas en faire ce que la foule en fait. Et il semble que le livre, le chant 6, devait être consacré à un long regard sur le calme des dieux. Eh bien, ça n'est pas comme ça que ça a tourné, pour des raisons. Pour quelles raisons, on ne sait pas.
Paul Venn.
C'est très drôle, c'est très amusant, les dieux d'Épicure. La preuve que les dieux existent, c'est que beaucoup d'hommes en ont vu en rêve. Or, on ne peut pas rêver n'importe quoi. Il faut que des atomes venus des dieux aient frappé les atomes ronds de notre tête pour que nous puissions rêver de Dieu. Donc, puisqu'on rêve des dieux, ils existent réellement, il y a plus. Certains les ont entendus parler dans leurs rêves. Eh bien, ils parlent une langue proche du grec. Mais alors, me direz-vous, comment se fait-il que les dieux soient immortels? Nous, ils nous tombent sans arrêt sur le corps des atomes, et certains des atomes sont mortels, sont létifères, pire qu'une balle de shrapnel. Et les dieux? Alors, Épicure avait fourni une réponse. Nous, quand on reçoit un atome mortel, on meurt. Mais les dieux, eux, quand ils reçoivent un atome mortel, tenez-vous bien, ils s'époussettent. Aposeiestai dans le texte grec, pour ceux qui n'y croiraient pas.
Oui, alors justement, Épicure dit aussi, l'impie n'est pas celui qui rejette les dieux de la foule, n'est pas celui qui détruit la croyance aux dieux de la foule, mais celui qui attribue aux dieux le caractère que lui attribue la foule. Voilà, donc il faut modifier la croyance, et cela fait dire à Lucrèce que les dieux, par la nature, leur nature même, jouissent de l'immortalité, cette immortalité singulière dont vous avez parlé, au milieu de la paix la plus profonde, étranger à nos affaires, dont ils sont tout à fait détachés, exemptes de toute douleur, exemptes de tout danger, fortes d'elles-mêmes et de ses propres ressources, n'ayant nul besoin de notre aide, leur nature n'est ni attachée par des bienfaits, ni touchée par la colère. Mais ils sont inaltérables, et donc nous n'avons pas besoin de les craindre, car c'est toujours cela, voilà. Comme si la seule crainte véritable, la seule crainte épouvantable pour les hommes, c'était la crainte des dieux.
Alors, il faut tout de même reparler un petit peu de cette détestation de la religion et de ce poème de physique écrit pour débarrasser les gens de la religion définitivement. Alors, une chose qui est très frappante, c'est que religio, il y a discussion sur l'étymologie. Les chrétiens, on dit que ça venait de religare, relier, mais il semble, comme Cicéron le dit, que ça vient de relegere, de recueillir les rites, et avec scrupule, les rites des ancêtres. Eh bien, ce mot pose tellement problème, le mot de religio pose tellement problème, que notre Ernoux, notre traducteur de cette édition, traduit religio 8 fois par religion et 4 fois par superstition. Et on ne sait pas très bien définir ce qu'il entend par religion. La vraie religion, en quelque sorte, c'est l'éthique épicurienne. Et ce qu'il dénonce surtout, je crois, ce sont ces superstitions qui avaient envahi la religion romaine, venant des Chaldéens, venant des Étrusques, avec toutes ces pratiques divinatoires qui inquiétaient beaucoup les gens. Mais être contre la religion, comme il l'est, d'un bout à l'autre, à plusieurs reprises, et maintenir l'existence des dieux, ça c'est assez fort.
Et il l'est, vous dites, d'un bout à l'autre, il l'est notamment au début, avec une description très véhémente du sacrifice d'Iphigénie. L'horreur que représente pour Lucrèce le sacrifice d'Iphigénie, et c'est là qu'il a ce vers célèbre, tant la religion put conseiller de crimes. Et ça, ça m'a fait penser, si vous voulez, par opposition, à un auteur comme René Girard, puisque René Girard attribue à la révélation judéo-chrétienne la mise en cause du mécanisme sacrificiel de la religion des anciens. Et Lucrèce est un auteur païen, absolument païen, et radicalement anti-sacrificiel. Alors, il ne s'agit pas pour lui, à travers la critique du sacrifice, de récuser les unions sacrées, comme le fait René Girard, qui dit, avec le christianisme, le judéo-christianisme, au fond, l'humanité occidentale prend le parti des victimes, il n'empêche, c'est pour lui un crime inexcusable. Le sacrifice est un crime inexcusable, puisque les dieux, précisément, et c'est ça qui est très fort, ils ne sont jamais en colère, il n'est pas besoin de les apaiser.
Si vous permettez que j'ajoute un mot, il ne s'agit pas seulement dans ce texte du sacrifice d'Iphigénie, mais au livre 2, au chant 2, du sacrifice du petit veau. Il décrit la mère recherchant son petit veau immolé. Racine a imité les vers qui concernent le sacrifice du veau et pas les vers qui concernent le sacrifice d'Iphigénie. Et cette mère qui erre partout à la recherche de son petit, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a critique du sacrifice humain, mais aussi critique du sacrifice animal, parce que pour Lucrèce, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis tellement intéressée à lui, pour Lucrèce, les animés, les animantes, les, comme on dit en grec, les empsuka, les êtres vivants qui respirent, ont des droits, en quelque sorte, au même titre. Et c'est pas par hasard, quand il parle du clinamen, justement, il parle pas seulement du libre-arbitre ou de ne sais quel concilium des hommes, il parle d'un cheval qui a été retenu et qui s'échappe à cause de cette force de la déclinaison en lui. Et j'insiste beaucoup sur ce point, les animantes, l'oikeiosis dont vous parliez tout à l'heure, monsieur, cette parenté, elle existe entre les hommes, vous aviez raison de le dire, mais pour Lucrèce, elle existe aussi avec les animaux.
Alors, avant de te donner la
parole... Oui, vous avez raison. Les vers étonnants où il décrit avec émotion les animaux qui rêvent, qui remuent les pattes. Ben
voilà. Mais plusieurs fois.
Et alors, je voudrais citer quand même le passage sur le petit veau. Devant le temple des dieux magnifiquement ornés, au pied des autels où brûle l'encens, souvent un veau tombe immolé, exhalant de sa poitrine un fleuve chaud de sang. Cependant, sa mère désolée, parcourant les verts pâtis, cherche à reconnaître sur le sol l'empreinte de ses sabots fourchus, fouillant des yeux tous les endroits dans l'espoir d'y revoir peut-être le petit qu'elle a perdu. Et ça se situe dans le cadre d'une description justement pluraliste du monde. C'est-à-dire, Lucrèce nous dit, les animaux, au fond, ne sont pas les simples exemplaires d'une espèce. Eux-mêmes sont des individus. C'est là qu'on retrouve cette idée que exprimée par Deleuze, qu'il a vraiment donné ses lettres de noblesse au pluralisme. Mais en effet, il y a une critique du sacrifice animal et pas simplement du sacrifice humain. Alors maintenant, une autre question que je voudrais aborder avec vous, Paul Venn et Elisabeth de Fontenay, c'est la question de l'amour chez Lucrèce, parce que il veut nous désangoisser, il veut nous désillusionner, il dit voilà, l'amour procure trop de souffrance, délivrez-nous de l'amour. Alors que pensez-vous de ce message-là du De Natura Rerum, Paul Venn?
Eh bien, entre les hommes ont passé entre eux des pactes qu'il faut respecter et qui leur permettent de vivre en paix et de ne pas vivre dans la rue sans loi ou selon la loi de la jungle. Ces pactes impliquent qu'il faut avoir des enfants, disons plutôt faire des enfants. Il vaut mieux les faire d'ailleurs en position animale que dans la position du missionnaire. Il va jusque-là. Mais alors que je ne crois pas par exemple à l'angoisse de Lucrèce, il y a une chose qui me paraît claire, c'est l'incroyable misogynie, je n'oserais pas donner de détails, que reflète une de ces pages, c'est encore pire que les sottises de Monterland dans ses romans misogynes.
Oui, ils avaient de fond.
Alors, il y a un double modèle. Il faut être impassible dans l'amour, comme les animaux et comme les dieux, si je puis dire. Il y a le double modèle des animaux et des dieux. Et c'est vrai que ce naturalisme, alors que je pense que dans la suite de la plupart des vers de son texte, il n'y a pas de naturalisme au sens commun où on l'entend, là, avec la question de l'amour, la sexualité, il y a une normativité naturaliste qui est presque insupportable. Et comme vous le dites, un mépris des femmes, et simplement, il est capable, dans une page, de décrire la férocité de l'amour. Et là, j'ai envie de citer quelque chose que Jean Salem cite. Jean Salem cite Yvon Bélaval, qui cite Sade. Et la phrase est « Il n'est point d'homme qui ne veuille être despote quand il bande ». Et je crois que ça s'applique très bien à la description lucrécienne de la férocité de l'union charnelle d'un homme et d'une femme qui sont amoureux.
Oui,
parce que quand ils ne sont pas amoureux, ça va. Ça,
c'est... La puissance descriptive des scènes d'amour.
C'est le seul cas, dit Lucrèce, où plus nous possédons, plus notre cœur s'embrase de désirs furieux.
Ça, je trouve que c'est une
justesse extraordinaire. Mais alors, bon, par-delà Lucrèce, tout de même, et son éventuelle misogynie, ce qu'il dénonce dans l'amour, c'est l'aliénation. C'est-à-dire la déraison et la dépendance.
Ouais.
Et il a cette phrase, il y en a d'autres qu'elle, nous avons vécu jusqu'à ce jour sans elle. Donc, voilà. Il faut désaliéner les hommes. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas quand même un des grands principes de l'Antiquité? C'est-à-dire un idéal de souveraineté, une confusion de la liberté et de la souveraineté. C'est quand Hannah Arendt dit « la liberté nous a été donnée dans la condition de non-souveraineté », c'est par opposition à certaines tendances du monde moderne, mais c'est d'abord dans une réponse au, au discours des anciens. Donc est-ce que ça, c'est cette méfiance à l'égard de l'amour n'est pas plus générale? Est-ce qu'elle ne peut pas valoir pour toute éthique du souci de soi? En reprenant le thème de Michel Foucault, dès lors que c'est le souci de soi qui prime, le perfectionnement individuel, alors l'autre doit être tenu à l'écart, ses pouvoirs redoutables doivent être conjurés. Y a-t-il place pour l'amour dès lors, précisément, qu'on choisit l'idéal de la souveraineté?
Je ne crois pas qu'il y ait le moindre souci de soi chez Lucrèce. Je ne crois pas. Et je ne crois pas qu'il y ait le moindre idéal d'autonomie.
C'est bien la dépendance qu'il fustige.
Oui, mais c'est la dépendance en tant qu'elle nuit à la sérénité, tout simplement. Et il faut que l'homme satisfasse son besoin comme il le peut, là où il le peut, pour ne pas être troublé par ce besoin.
Toujours l'ataraxie.
C'est toujours ça, c'est toujours la même chose. Mais je ne dirais pas que l'ataraxie, c'est une autonomie. Je n'irai pas jusque-là.
Vous pensez, parce qu'en même temps, on peut dire, oui, dans l'ataraxie, l'homme ne peut plus être atteint. Il est d'une certaine manière souverain. Aucune aliénation n'est possible.
Oui, mais les mots souverain, autonomie, souveraineté, autonomie sont des mots, à mon avis, qui ne prennent pas en charge la morale épicurienne.
Et oui, il y a tout de même une morale épicurienne parfaitement rationaliste et intellectualiste. Chacun de nous a passé, les hommes ont passé entre eux, des pactes de non-agression. C'est tout. Cela dit, l'idéal est d'être pour chaque homme comme un scaphandrier. Parfaitement isolé dans sa combinaison, il ne peut rien lui arriver, mais évidemment, un scaphandrier peut difficilement faire l'amour.
Est-ce que ça, c'est propre à Lucrèce, l'idéal du scaphandrier?
Non, c'est l'idéal permanent de l'Antiquité.
Oui. Ah oui, quand même, oui, c'est ça. Non,
Les Grecs, avec leurs dieux, les dieux sont une espèce étrangère supérieure, mais enfin, c'est comme la France devant les États-Unis, il faut leur faire sentir qu'on est soi-même.
Mais c'est en lisant le De Natura Rerum, j'ai pensé, par opposition, au livre de Jankélévitch, Le traité des vertus, et notamment au long chapitre qu'il consacre à l'amour. Puisqu'à la fin de ce chapitre, Jankélévitch dit, dans une éthique qui jusque-là semblait administrer mon seul perfectionnement individuel, l'amour signifie l'intrusion paradoxale, inexplicable, soudaine de l'autre. Et ce qui est très étrange, c'est qu'évidemment là il s'agit de l'amour au sens biblique, mais il y a des descriptions de l'amour-passion dans le traité des vertus. Une fois au moins dans sa vie, l'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, aura connu la grâce de vivre pour un autre, pour une femme. Il part de l'amour de Dieu comme la haute école de l'altérocentrisme. Il y a quelque chose qui vaut aussi pour l'amour-sentiment, l'amour-passion. Dès lors qu'on change de perspective et que l'autre entre dans le paysage, à ce moment-là, il y a place pour une description positive de l'amour.
Ouais. Isabelle de Fontenay. Oui, c'est évident que je ne crois pas, sauf peut-être chez Platon, que l'autre surgisse le moins du monde dans la pensée grecque et latine. Et il y a, je vous le disais, et la mort n'est rien pour nous. Et la mort de l'autre, elle n'est vraiment rien pour toi. Donc il y a vraiment, je dirais pas un repliement sur soi, je refuse le mot d'autonomie, parce qu'il faut quand même bien garder la distinction entre les stoïciens et les épicuriens. Faut pas les mélanger, ils s'opposent. Et si l'idéal d'autonomie est très important, de liberté et d'autonomie est très important chez les stoïciens, je ne crois pas que chez Lucrèce, en tout cas, ce souci de l'autonomie. Et j'ajouterais que, bon, ça c'est un trait commun aux stoïciens et aux épicuriens, il y a un dégagement de tout souci du politique, et du souci social, même s'il y a un pacte de non-agression, qui est le degré zéro tout de même de la socialité. Il y a un désengagement, un désintérêt pour le politique et pour le social qui nous est très étranger, qui nous est complètement étranger, et qui vient peut-être aussi du fait que ni les uns ni les autres n'ont réussi à penser le temps.
Oui, il a pensé la mortalité des mondes, mais il n'a pas pensé le temps.
Le temps n'est pas pensé par Lucrèce, il n'est pas non plus pensé par les stoïciens. On a tendance à dire que l'expérience interne du temps, ça apparaît avec Saint-Augustin et pas avant. Et alors le temps chez les Grecs, le temps chez les Romains, c'est la fuite du temps, mais ça n'est pas cette expérience du temps qui peut faire naître l'historicité. Il n'y a aucune historicité.
Je voudrais que maintenant que nous en venions à la fin du livre. Alors, c'est pas forcément la fin qu'imaginait Lucrèce. Il est mort, je crois, avant d'avoir pu terminer le De Natura Rerum. On ne sait pas dans quelles conditions il est mort. On parle de suicide, mais je crois qu'on n'en est pas sûr. Mais dans l'état actuel des choses, si je puis dire, ce livre se termine sur la description de la peste d'Athènes, une description reprise de Thucydide, mais qui a une concrétude absolument extraordinaire. Donc, et là, on retrouve le grand paradoxe d'une œuvre qui est destinée à nous guérir de la peur et qui nous fait terriblement peur. Alors, que pensez de cette description? Comment la lisez-vous? Comment la lire aujourd'hui? Que signifie-t-elle dans l'économie générale du poème philosophique de Lucrèce?
C'est la description du mal absolu, en quelque sorte, qui vient de hasard et nécessité, qui vient de l'extérieur et qui n'a pas de raison autre que des raisons physiques. Alors, quand on vous explique, quand vous avez le choléra, car il paraît que c'est le choléra, quand vous avez le choléra, que ça meurt, ça n'arrête pas de mourir autour de vous, que vous-même vous allez mourir, qu'on vous explique que c'est une causalité en rapport avec les vents, éventuellement avec les météores, avec tout ce que vous voulez, parce que c'est tout de même des vers qui arrivent après des considérations météorologiques et cosmologiques. Je ne pense pas que là, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il a pu faire coexister ce texte de Thucydide qu'il recopie et sa philosophie de l'impassibilité, enfin de la ataraxie. Et je dois dire, je ne voudrais pas choquer, que la lecture chez Lucrèce ou Thucydide de cette peste à Athènes m'a fait penser à certaines descriptions du ghetto de Varsovie. Sauf que le mal vient d'on ne sait où, mais enfin le mal est explicable par une causalité physique chez Thucydide et Lucrèce, alors que le mal vient de la méchanceté pure des hommes dans le ghetto de Varsovie. Mais cette description de la peste à Athènes est une des choses les plus impressionnantes que j'ai lu dans la littérature ancienne.
Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Paul Venn?
Oui, oui, oui. Mais tout à fait. Et ce que vous dites là-dessus me fait penser à une chose qui finalement en est proche. Bon, les épicuriens ne sortent, sont des scaphandriers qui ne sortent pas d'eux-mêmes. Tout de même, ils ont le culte de l'amitié, mais avec des épicuriens comme eux. Et ce que je voudrais dire, c'est que la pensée de Lucrèce me semble être une pensée sectaire. Il s'intéresse à autrui en tant qu'il peut, comme Mémius, son dédicataire, le convertir. C'est une réaction sectaire, et ceux qui ne font pas partie de la secte sont pitoyables, les autres hommes. Et dans pitoyables, il y a autant de mépris que de commisération.
Oui. Alors justement, permet peut-être une dernière réflexion sur le statut de la compassion, parce que il y a un passage de Lucrèce dont j'ai appris qu'il était proverbial, à ma grande honte parce que je ne le connaissais pas. Donc quand on ne connaît pas un proverbe, c'est qu'on est inculte. Mais il dit ceci: douceur lorsque les vents soulèvent la mer immense, d'observer du rivage le dur effort d'autrui. C'est le suave Marie Magno, qui paraît-il est très connu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Montaigne commente ce passage avec une notation psychologique tout à fait extraordinaire. Au milieu de la compassion, nous sentons au-dedans une je ne sais quelle aigre-douce pointe de volupté maligne à voir souffrir autrui. Mais il n'y a rien de malin dans la description qu'en donne Lucrèce. Alors que penser de ce passage, Elisabeth de Fontenay?
Alors, vous avez parlé de compassion, de pitié, Le mot piétas, c'est à la fois la pitié et la piété. Et ce qui me frappe beaucoup dans cette description de la peste à Athènes, c'est qu'il y a évidemment une immense pitié pour ces pauvres gens. Et quel est le statut de la piété envers les morts? Et c'est une chose qui me choque beaucoup chez Lucrèce, parce qu'il s'émeut beaucoup de la mort du petit veau ou d'Iphigénie. offert en sacrifice. Mais Antigone, qu'est-ce qu'il en penserait? Qu'est-ce qu'il en pense? Puisqu'il considère que tous ces rites funèbres qu'on ne peut plus accomplir pendant la peste à Athènes, parce qu'on meurt tellement massivement qu'il y a des morts dans la rue, et détail absolument atroce, les gens se volent les bûchers. Une famille construit un bûcher, et voilà qu'il y a une autre famille qui arrive avec plus de garçons capables de faire un coup de force, et on vole le bûcher de l'autre. Et il ne rit pas de ça, bien entendu, mais il montre à quel point tout ça est misérable. Et quelle est sa pensée, en fin de compte, au sujet du corps du mort? Dans un autre passage, il dit « Oh oui, les gens sont ridicules, ils sont épouvantés à l'idée que les oiseaux mangeront leur corps mort, leur cadavre. » Vous rendez compte ce que ça veut dire que d'écrire ça quand il y a Sophocle derrière? Qu'est-ce que ça peut faire que les oiseaux mangent ton corps ou mon corps après la mort?
Oui,
donc il y a une sorte de... La mortalité de l'âme va jusqu'à la certitude de la mortalité de l'âme va jusqu'à ce que le corps ne mérite aucun soin funèbre particulier, et c'est encore la critique de la religion. Mais je trouve que là, ça commence à aller très loin, et que la pitié vis-à-vis des hommes et des femmes qui meurent du choléra à Athènes ne s'accompagne d'aucune piété.
Vous diriez ça aussi, Paul?
Oui, certainement. Mais tout ce que dit Madame de Fontenay est parfaitement exact, mais il me reste malgré tout la vision de ce ciel nocturne étoilé. Chaque fois que je lis ce poème, et dès qu'on commence à le lire, on ne peut plus lâcher. Seulement, ma nuit étant courte, je ne suis pas arrivé jusqu'au tout dernier chant, je n'ai pas lu la peste d'Athènes. Mais enfin, cette vision de ciel nocturne étoilé dans un poème qui cherche avant tout la clarté, c'est saisissant.
Oui, et on peut terminer d'ailleurs sur cette image, parce que ce poème qui cherche la clarté est rempli de descriptions très sombres. Hein, il y a le ciel nocturne étoilé, mais il y a aussi...
Il est très nocturne.
Il y a ce cas de terriblement nocturne, la description de la peste d'Athènes. Bien, mais écoutez, je vous remercie pour cette discussion. Alors, je rappelle le titre du livre... titre célèbre entre tous, Lucrèce de la nature, et il est le 99e, je crois, volume de la collection Classique en poche que dirige aux éditions des Belles Lettres Hélène Monsacré. J'ai cité également de Jean Salem, Lucrèce et l'éthique, La mort n'est rien pour nous. Ce livre est publié chez Vrin, et j'ai aussi fait référence au Traité des Vertus de Jean Kélévitch chez Flammarion et à Logique du sens de Gilles Deleuze. Le livre est publié évidemment aux éditions de Minuit. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Marie Dalquier et Didier Lagarde, à la technique Adrien Roch. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.